France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Fanny Richet, Anouk Millot et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. Alors qu'en France, la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public poursuit ses auditions, avec tout à l'heure celle de la présidente de Radio France, Sybille Veil, nous consacrons notre série de la semaine sur d'autres groupes audiovisuels publics sommés de faire leur examen de conscience. Après la BBC et les radios et télévisions publiques allemandes, l'audiovisuel public slovaque et hongrois, où le pouvoir a repris le contrôle.
De toute évidence, le niveau de confiance de la société envers la télévision et la radio slovaque a diminué. Et ce que je considère personnellement comme le plus important, les émissions ont progressivement perdu leur dimension de service public, renonçant à l'équilibre et à l'objectivité, en particulier dans les programmes d'information et les émissions journalistiques.
Après les mesures adoptées pour contrôler l'audiovisuel public, c'est aux journalistes de la radio et de la télévision nationale de se défendre pour ne pas céder à la pression et ne pas devenir un média d'État.
Nous gardons espoir. Heureusement, nous n'en sommes pas encore au niveau de nos collègues hongrois, où les médias publics sont entièrement contrôlés par le gouvernement. Mais nous avançons dans cette direction. C'est pourquoi nous portons des badges, pour montrer que nous résistons à la censure.
Chers médias libéraux progressistes, je m'excuse d'avoir survécu, mais je suis de retour, écrivait Robert Fizzo sur ses réseaux l'année dernière, après avoir échappé à une tentative d'assassinat, un tir dans la poitrine en pleine rue. Finalement, indemne et plus déterminé que jamais à l'encontre de médias qui certes pouvaient se montrer critiques, mais pas jusqu'à souhaiter sa mort, le Premier ministre slovaque a mis en œuvre sa réforme de l'audiovisuel public, adoptée un peu plus tôt par un parlement où la coalition entre son parti et ses alliés d'extrême droite est majoritaire. La réforme en question porte essentiellement sur la désignation du ou de la chef des télévisions et radios publiques et conditionne leur budget au respect d'une certaine ligne éditoriale. Les opposants au projet accusent Robert Fizzo de vouloir s'inspirer de la méthode du Hongrois Viktor Orban, lequel a transformé les médias publics en outils de propagande au service du Fidesz dès 2011, avant de s'attaquer aussi aux médias privés. Alors plus d'un an après la réforme, est-ce que ce contrôle nouveau se voit et s'entend sur les différentes chaînes publiques slovaques? Quelle marge de liberté et de résistance reste-t-il aux journalistes? Et que nous apprend l'expérience hongroise avec cette fois près de 15 ans de recul? Bonjour Jana Vargovčíková.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'INALCO. Nous sommes également depuis Bruxelles avec Simone Benazzo. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et vous êtes en duplex depuis le bureau de Fabien Cazot, le correspondant de Radio France, que je remercie de vous accueillir. Alors puisque, pour commencer par la Slovaquie, Jana Vargovčíková, nous sommes en Slovaquie comme en Hongrie, dans deux cas où des figures du national-populisme sont au pouvoir. Alors on pourra qualifier davantage le populisme de Robert Fizzo en Slovaquie. À l'origine, c'est un social-démocrate. C'est un peu compliqué de rentrer dans ces détails-là tout de suite, mais on va d'abord raconter ce qu'elles ont fait, ces figures-là, progressivement, de l'audiovisuel public et par quelles étapes. Dans le cas le plus récent, la Slovaquie, quand Robert Fizzo arrive au pouvoir après les législatives de 2023, est-ce que la réforme de l'audiovisuel public est vraiment l'une de ses priorités?
Oui, alors, effectivement, on peut dire que c'est une priorité du gouvernement. Alors, il faut dire que lorsque Robert Fizzo revient au pouvoir, Tout cela s'inscrit aussi d'ailleurs dans l'histoire de son échec électoral de 2020 où il perd le pouvoir dans les suites des mobilisations de la société à la suite de l'assassinat du journaliste Jan Kuciak. Donc c'est déjà un rapport entre son gouvernement de l'époque, c'est les accusations de la responsabilité d'une aggravation de l'atmosphère, en tout cas de la relation avec les journalistes.
Celui qui a été assassiné a enquêté sur la corruption au sein du parti, pas sur lui en particulier,
pas Premier sur ministre Fico, le Premier mais... ministre, mais en tout cas sur des personnalités liées au parti. Donc, lorsqu'il revient au pouvoir en automne 2023, ces initiatives sur la réforme de l'audiovisuel public s'inscrivent dans des relations déjà très tendues avec les journalistes des médias publics et privés, simplement ceux qui sont critiques ou qu'ils considèrent trop critiques de son parti. Cette priorité prend peut-être encore de l'importance par l'alliance que son parti SMER fera avec le Parti National Slovaque, puisque en Slovaquie, le système électoral est très très proportionnel et la plupart du temps, vraiment sauf exception, le SMER est arrivé une fois à former tout seul un gouvernement, mais c'est vraiment très exceptionnel, il faut d'habitude s'allier au moins avec un autre parti, et cette fois-ci, à nouveau, c'était ce petit parti nationaliste, disons de droite radicale, qui lui aussi considérait que c'était un dossier prioritaire. Et c'est le Parti National Slovaque qui a obtenu donc le ministère de la Culture compétent dans ce domaine, donc de l'audiovisuel public, comme d'ailleurs compétent sur tout un ensemble d'institutions culturelles qui relèvent de l'État.
Avec cette ministre de la Culture, Martina Šimković-Šova, dont on parlera du parcours tout à l'heure, une ancienne journaliste elle-même qui prend à bras-le-corps cette réforme de l'audiovisuel public comme sienne. En quoi consiste-t-elle cette réforme-là? Est-ce qu'il s'agit uniquement d'un changement dans le système de nomination des dirigeants du groupe audiovisuel public? C'est surtout ça?
Alors, en effet, les processus de nomination sont au cœur de la méthode qui est adoptée, et la méthode est assez originale. D'ailleurs, elle sera employée aussi vis-à-vis d'autres institutions publiques, d'autres unités, dont la police, la justice, etc. C'est-à-dire que finalement, pour bien refaire les choses du jour au lendemain, ce qui se passe, c'est qu'on choisit de supprimer complètement l'entité juridique qui existe, donc la RTVS, donc déjà fusionner la télévision et la radio. La fusion avait eu lieu auparavant, et puis d'en recréer une autre, donc créer une toute autre entité juridique dont on peut donc redéfinir complètement la gouvernance. Donc on définit à partir de zéro la composition du conseil d'administration, les méthodes d'élection de la directrice ou du directeur général, qui donc dirige le télévision plus radio. Et donc on peut remplacer rapidement la direction et ce conseil d'administration qui a en fait des compétences assez fortes.
Conseil d'administration appelé conseil d'éthique qui élit le directeur du groupe. 9 membres nommés par le gouvernement et le Parlement, lequel, vous le rappeliez, est dominé par le parti SMER de Fico et ses alliés d'extrême droite. De quelle faiblesse de l'audiovisuel public Robert Fico a-t-il profité pour imposer cette réforme? On avait fait une série sur la recherche en danger dans Culture Monde il y a un an et dans l'émission sur les universités en Hongrie et en Pologne du temps du PiS. Notre invité Jérôme Heurtaud nous avait dit combien des réformes précédentes, la libéralisation après 91, avait fragilisé les facs et pavé la voie à ce contrôle. Est-ce que c'est le cas aussi pour l'audiovisuel public? Vous parliez de cette fusion déjà qui avait eu lieu entre la radio et la télévision publique, ça nous rappelle quelque chose ici en France. Pour l'instant, on en a réchappé, mais on ne sait pas pour combien de temps. Est-ce que vous diriez que ces réformes-là ont pavé la voie de ce contrôle ou d'autres réformes qui ont eu lieu juste avant le retour au pouvoir de Robert Fico?
Alors effectivement, la thèse, disons, d'une fragilisation par des réformes qui avaient été, elles, motivées principalement par des raisons économiques, et d'ailleurs adoptée non pas lors des gouvernements du parti Smer, mais précisément lors des gouvernements de ses opposants, ont décidé premièrement de la fusion, à l'époque avec l'argument principalement de l'endettement élevé de la télévision publique. Donc c'était la raison principale avancée pour fusionner radio et télévision. D'ailleurs, le ministre de la Culture de l'époque avait été journaliste lui-même, alors pour des télévisions de chaînes privées, mais connaissait bien, disons, ça c'est un autre paradoxe, le domaine. Et puis, la suppression de la redevance aussi, c'est quelque chose qui avait été décidé très peu de temps, d'ailleurs, avant les législatives de 2023 et a pris effet avant les législatives de 2023, avec cette idée que voilà, la redevance était quelque chose d'assez vieilli, qu'il fallait passer à un autre système, que tous les citoyens de loin ne suivaient plus les médias publics. C'est davantage vrai en Slovaquie, entre parenthèses, qu'en France, puisque les chaînes public, effectivement, moins de spectateurs et d'auditeurs qu'en France, par exemple. Et donc, la redevance a été remplacée par cette contribution directe de l'État, qui est inscrite dans la loi, mais ce n'est pas une loi constitutionnelle, donc là aussi, c'est modifiable. Et cela crée aussi une dépendance donc plus directe de budgétaire de ce que l'État peut verser à la télévision.
Donc la redevance remplacée par une dotation a priori équivalente de 0,17% du PIB, sauf qu'en 2024 le devis public a reçu 0,12%. Donc c'est
Alors, ça a été modifié après. Oui, dans les débats, ça a été ensuite revu à la baisse avec cette formule de minimum 0,12, et souvent donc la télévision demande plus. La nouvelle directrice aussi a demandé plus que 0,12. Et puis, ça dépend de, voilà, des négociations. Mais donc, le minimum a été revu un petit peu à la baisse.
La nouvelle directrice a quand même demandé plus, ce qui est à noter. On parlera d'elle dans un instant. D'abord, je voulais savoir, Simone Benazzo, si vous reconnaissez dans ce processus raconté par Yana Vargovčíková sur ce qui s'est passé en Slovaquie. Est-ce que vous reconnaissez ce qui s'est passé en Hongrie il y a maintenant 14 ans, en 2011, quand Viktor Orban arrive au pouvoir et qu'il veut reprendre le contrôle sur l'audiovisuel public? Est-ce qu'il profite aussi de médias qui sont déjà affaiblis? Est-ce que sa technique est la même?
Oui, je pense que si on veut bien comprendre la différence entre l'Hongrie et la Slovaquie, je pense qu'il y a des éléments à souligner. Les premiers, c'est un point technique. En fait, Orban, quand il revient au pouvoir en 2010, en fait, il pouvait déjà compter sur une majorité des deux tiers. Du coup, il s'agissait d'une majorité très large et l'opposition était complètement délégitimisée parce qu'en fait, il y avait eu un grand scandale qui avait presque complètement délégitimé l'opposition. Du coup, premier élément, Orban avait une majorité de deux tiers. Deuxième élément, je pense qu'une des différences entre Robert Fico en Slovaquie et Viktor Orban, mais même entre Viktor Orban et les autres politiciens, les autres leaders autoritaires et libéraux, c'est qu'en fait, Orban, il a toujours eu une stratégie. Il avait déjà été premier ministre une première fois, et après sa défaite électorale en 2002, et à l'époque, il était en fait un politicien de modéré, en fait, conservateur, mais en fait, après sa défaite en 2002, il est tombé en dépression. Il a pensé quitter la politique. Mais après, il a décidé, non, moi, je reste ici, mais moi, je vais tout changer parce que moi, je vais avoir une stratégie très précise. Dans un discours qu'il a fait en 2014, il a mentionné pour la première fois son désir de construire, de bâtir une démocratie illibérale. Et c'était la première fois que ce terme, démocratie libérale, était utilisé au dehors de l'académie.
Mais pour vraiment axer ce que vous dites sur l'audiovisuel public, est-ce que ce discours-là était déjà au service de cette réforme de l'audiovisuel public?
Oui, je pense que ça faisait partie de sa stratégie, en fait. Avant de revenir au pouvoir, Fidesz avait déjà un plan. Et ici, on peut observer une autre différence entre la Slovaquie et l'Hongrie. En fait, l'Hongrie, Orban, a été les premiers. Du coup, on peut parler, en sciences politiques, on parle de authoritarian playbook, d'un guide stratégique pour les autoritaires. Et Orban et ses proches, ils ont fait ça. Et la capture des médias audiovisuels, c'était bien une partie de ces guides stratégiques. Et je pense que Fico, ainsi que les autres leaders libéraux, en fait, ils ont pu profiter de ce que Orban et Fidesz avaient fait en Hongrie. Parce que maintenant, on a une guide stratégique, un playbook qui tous les politiciens qui vont démanteler les services publics peuvent suivre.
Voilà, il peut, Robert Fico, s'appuyer sur ce qui a été fait, observer de près comment ça s'est passé et avec quelles conséquences aujourd'hui, même s'il n'a pas du tout affiché sa volonté de faire pareil. Hein, il ne se revendique pas totalement de Viktor Orban, au moins sur ce dossier-là. Par exemple, il n'a pas encore mis en place, enfin pas ou pas encore mis en place le système d'utiliser des relais économiques pour racheter des médias au niveau local, régional et national, comme ça se voit en Hongrie. Alors, en Slovaquie, ce poste de direction à la tête du groupe d'audiovisuel public est d'abord resté inoccupé pendant un an pour que finalement soit nommée une nouvelle directrice, Martina Flaščíková, donc directrice de la télévision et radio slovaque, avec un projet assez dépolitisé, en fait, Jana Vargovčíková. On ne peut pas dire qu'elle soit arrivée en disant qu'elle allait mettre tout le monde au pas, que les journalistes disaient n'importe quoi et qu'il fallait remettre de l'ordre d'une certaine façon. Elle a plutôt un projet presque économique de garder le groupe à flot.
Tout à fait. C'est d'ailleurs pour cela que les réactions à son élection dans les premiers temps étaient plutôt modérées. Même dans, disons, la communauté professionnelle. D'ailleurs, c'est donc quelqu'un qui était très, très peu connu du large public. Ce n'était pas du tout une personnalité publique. Elle a émergé un peu, bon, pour le grand public par surprise, face à son principal concurrent, disons le directeur général par intérim, qui reliait donc la petite période entre le départ du directeur général précédent et l'élection. Elle était connue comme notamment productrice d'émissions télévisées aussi. Et dans son projet, elle mettait l'accent sur, par exemple, le passage dans le domaine numérique, la création d'une sorte de Netflix public. Avec une petite note qui apparaissait quelque part, cette mention d'une attention à l'objectivité, de la nécessité pour les médias publics de montrer du respect pour toutes les opinions dans la société. Donc c'est une formule assez vague, bon, consensuelle en soi, qui en fait aussi référence néanmoins au fait à une conception bien spécifique de l'objectivité.
Même si en effet tout le monde a quand même été soulagé, enfin tout le monde, on a plutôt été soulagé de voir en Slovaquie, pour ceux qui avaient peur de cette réforme, de voir que n'avait pas été retenu Lukas Machala, conseiller de la ministre de la Culture, platiste revendiqué, qui était pressenti dans un premier temps. On s'est dit bon, c'est pas plus mal cette nouvelle directrice qui est très modérée, rien à voir non plus avec la ministre de la Culture dont vous nous parliez, Martina Šimkovičová, qui, elle, est membre non pas du parti de Robert Fico, le SMER, mais du parti national slovaque, le SNS, parti nationaliste de droite radicale, qui fait partie de la coalition au pouvoir. C'est une ancienne journaliste, cette ministre, racontée ici par un journaliste, Martin Odas.
C'est un média qui s'appelle TV Slovan, pour lequel elle a travallé avec une autre personne élue au Parlement entre-temps. C'était le type de vidéo qui colporte des rumeurs assez absurdes, comme l'idée qu'on inoculerait des puces électroniques aux gens pour les suivre, un peu du niveau de la théorie que la Terre est plate. Mais elle a réussi à se faire élire et à devenir ministre. Et on redécouvre aujourd'hui les dingueries qu'elle a contribué à propager.
Extrait d'un grand reportage d'Alexis Rosenzweig réalisé par Annie Brault et diffusé sur France Culture l'année dernière. Cette ministre de la Culture a commencé elle-même sa carrière dans la radio publique avant d'être présentatrice de la principale chaîne privée du pays, Markiza, qu'elle avait dû quitter après avoir posté des messages racistes sur sa page Facebook. Est-ce que les programmes de l'audiovisuel public en Slovaquie ont beaucoup changé depuis l'arrivée de le retour de Robert Fico au pouvoir et cette nouvelle ministre de la Culture, Jana Vargočíková, que ce soit parce que des journalistes sont partis ou parce que la ministre est intervenue directement dans les programmes des chaînes, est-ce que ça se voit, est-ce que ça s'entend quand on allume la télé ou la radio publique ?
Alors pour l'instant, la situation est un peu ambiguë, dans le sens où la nouvelle directrice générale a procédé à quelques suppressions d'émissions et petit à petit annonce la création de nouvelles émissions ou de nouveaux types de programmes. Parmi ces suppressions, on trouve un mélange d'émissions de divertissement, de shows de divertissement, de ces compétitions de divertissement d'ailleurs sur licence internationale souvent.
Et ça, ce sont les nouvelles émissions ou ça, qui ont été supprimées?
Elle en a supprimé aussi.
Elle
a supprimé quelques émissions de divertissement, disant qu'elles en étaient à leur 10e saison, que le format s'était un petit peu épuisé, qu'il fallait créer autre chose à l'interne, qu'elle allait privilégier d'ailleurs la création de nouveaux formats, de nouvelles séries aussi, de la fiction maison.
Pourquoi pas d'ailleurs, c'est intéressant comme projet éditorial.
Tout à fait. Parmi les suppressions, on trouve deux émissions, notamment qui, elles, avaient un caractère, disons, politique au sens large. Un débat politique ou sur des sujets de société animé par le journaliste Michal Havran, qui s'appelait Dîner avec Havran, qui passait sur la deuxième chaîne publique. On a pu critiquer l'absence de justification ou très très peu de justification accompagnant cette suppression, et la suppression a été perçue et vécue par le journaliste en question qui animait pendant une dizaine d'années cette émission comme une censure. Et puis une émission de reportage, d'enquête, d'investigation a été suspendue pour l'instant. Après un incident où un reportage n'a pas été diffusé, en tout cas un reportage qui avait été préparé par un des membres de l'équipe, qui n'a finalement pas été diffusé. Donc là, des points d'interrogation.
C'était un reportage assez politique sur la corruption.
Alors c'était pas très politique, donc on ne sait pas très bien quelles étaient les raisons de la suppression. Cela concernait, c'était l'histoire d'un entrepreneur de l'Est de la Slovaquie qui s'était fait arnaqué par des avocats qui l'ont spolié globalement de sa propriété. La suppression aussi, les suppressions ont aussi touché une rubrique de fact-checking, d'identification des fausses informations qui circulent sur les médias sociaux et dans l'espace public.
Donc des émissions, quelques-unes supprimées, dont celle que vous mentionnez, une soirée avec Michael Avran, qui lui est parti, donc a quitté le service public et a remonté une émission grâce à des fonds privés sur le web, je crois. En tout cas, il sait bien, ce journaliste, comme tous les journalistes en Slovaquie, que ne sont pas visés par Robert Fico, seulement ceux qui travaillent pour le service public.
J'ai annoncé des mesures contre les médias hostiles TV Markiza, Denny Gain, SME et le portal Actuality. On peut au moins rendre honneur à ces médias. Ils affichent ouvertement leur haine et leur hostilité envers le parti SMER et ils propagent joyeusement leurs propres idées. Aujourd'hui, j'ai décidé que nous allions reconsidérer leur autorisation d'accès et de travail au sein du bureau du gouvernement, c'est-à-dire leur droit d'entrer dans le bureau et de nous importuner avec leur hostilité. Jusqu'à ce qu'une décision soit prise, ils seront des indésirables au bureau du gouvernement.
Alors, les journalistes ici visés par Robert Fico, a priori, leur cœur de métier n'est pas la conférence de presse, en tout cas, on leur souhaite, mais ils n'y ont plus accès du côté du pouvoir qui, si j'ai bien compris, aujourd'hui n'autorise l'entrée qu'à des journalistes soigneusement choisis, plutôt travaillant pour des médias qualifiés aujourd'hui de complotistes. Je me méfie beaucoup de cette catégorie, mais voilà, pour le dire très vite, complotistes ou d'extrême droite, ou des journalistes qui travaillent dans des structures privées qui ont pris ce relais-là. Alors là-dessus, Simone Benazzo, que ce soit en Slovaquie ou en Hongrie, quelque chose s'est passé au niveau du privé. Comment expliquer la façon dont des structures et des médias privés aujourd'hui, et en particulier en Hongrie que vous connaissez bien et sur lequel on a beaucoup de recul, ont pris ce relais des médias publics, et avec quels écueils, avec quels freins également financièrement, enfin comment ça marche?
Et les médias privés en Hongrie, en fait, ils ont monté une résistance, parce qu'en fait il faut se rappeler en fait que il y a eu un grand changement en 2015 avec la crise des réfugiés, Et parce que si on veut bien comprendre l'urbanisme, il faut aussi bien comprendre la période. Okay, la période était différente entre l'arrivée au pouvoir de Viktor Orban et le retour au pouvoir de Robert Fico. Et avec la crise des réfugiés en 2015, les médias de visuel public en Hongrie, ils ont vraiment commencé à diffuser de la propagande. Et c'était quelque chose qui ont fait... la propagande était vraiment très ouverte, c'était très clair à tout le monde, parce que le gouvernement a aussi déclaré l'état d'urgence. Et du coup, tous les pays sont entrés dans cette modalité de paranoïa publique, en fait. Et les médias privés, petit à petit, en fait, ils sont réussi à monter en résistance. Et je pense que vous l'avez déjà mentionné avant, des entrepreneurs qui étaient proches au pouvoir, au gouvernement, ils ont acheté les médias indépendants. Et ce qui s'est passé, c'est en fait que les journalistes, ils ont démissionné, ils ont quitté et ils ont fondé des nouveaux médias indépendants qui au présent, ils sont parmi les plus populaires au pays.
Parce que vous êtes en train, Simone Benazzo, vous nous avez dit combien ce qu'on a appelé la crise migratoire en 2015 ou la crise des réfugiés avait pesé dans la façon dont les journalistes travaillaient à l'époque et qui disaient recevoir directement des pressions pour raconter d'une certaine façon cette crise-là. Je voudrais juste qu'on entende un journaliste hongrois qui s'appelle András, qui a travaillé dans un média public pendant un temps à l'époque.
Nous recevons notre contenu directement de l'un des ministères. Quand des migrants étaient en train de traverser la Hongrie, nous avons reçu un ordre de ne pas montrer d'enfants. Ils voulaient empêcher que les enfants ne provoquent la sympathie de l'audience. L'idée était de dire, seuls des jeunes hommes arrivent, ils veulent envahir l'Europe. Cet enregistrement, par exemple, il prouve quelque chose.
Et donc là, il fait écouter son ancien rédacteur en chef du service international qu'il avait enregistré à son insu.
Nous ne soutenons pas l'opposition politique dans cette institution. Celui qui ne prend pas en compte cet avertissement ira trouver un autre travail et gagner son salaire ailleurs. Je ne veux pas qu'on me demande de nouveau ce sur quoi nous pouvons écrire et comment écrire dessus. Ceux qui ne le savent pas peuvent rentrer chez eux. Je n'ai pas le temps de jouer la nounou.
Un extrait d'Al Jazeera Balkan, et c'est bien le rédacteur en chef du service international de ce média-là, du média public hein, de l'époque, qui parle ici et qui s'adresse à ses journalistes, Simone Benazzo. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait si ces pressions sont toujours les mêmes? Donc là, on était en 2015. Est-ce que après maintenant 15 ans de Viktor Orban au pouvoir, est-ce que, pareil, on voit quand on allume la télévision publique hongroise, ou est-ce qu'on entend quand on branche la radio, que ce ne sont plus du tout les mêmes médias qu'avant? D'ailleurs, est-ce qu'ils étaient si libres que ça avant?
Oui, la situation n'a pas vraiment changé. Et parmi la population, je pense qu'il y a plus en plus beaucoup de gens, en fait, qui ont compris qu'ils ne peuvent pas vraiment faire confiance aux médias publics. Et c'est bien pour ça, en fait, qu'on assiste au cas de la chaîne YouTube Partisan, qui a commencé comme une chaîne YouTube plutôt activiste, un peu dit comme ça. Et je pense que les noms même, ils suggèrent ça, partisans. Mais il est devenu, entre-temps, il est aujourd'hui considéré comme les vrais services publics par des grands secteurs de la population. Et il y a beaucoup des personnes, des gens en Hongrie qu'en fait, ils considèrent ces chaînes YouTube partisans comme les vrais services publics. Pourquoi ça? Parce que les médias visuels en Hongrie, ils sont considérés, ils ont en fait vu comme des services de propagande, et la réalité qui est vécue chaque jour par les Hongrois n'est pas vraiment celle qui est racontée dans les médias audiovisuels publics.
Partisan, lancé en 2018 par un activiste des droits LGBT à l'origine, mais qui de chaîne activiste est devenu, vous le disiez, un média de référence. Et alors que la Hongrie ne compte que 10 millions d'habitants, certaines vidéos sur Partisan avec Peter Magyar, l'opposant principal à Viktor Orban pour les prochaines législatives en avril, ont été vues 3 millions de fois dans un pays, encore une fois, de 10 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut dire à l'inverse que Partisan est acquise à l'opposition, donc également en quelque sorte politique, où elle a vraiment un traitement moment, le plus objectif, on peut mettre encore une fois plein de choses derrière ce mot objectif, mais un traitement très journalistique des choses.
Je pense que Partisan, il a vécu une transformation. Au début, en fait, il avait une approche plutôt activiste, et maintenant, en fait, il est en train de se transformer et de devenir un peu plus un média plus objectif. Mais en général, je pense qu'il faut comprendre qu'en Hongrie, les notions d'objectivité dans le journalisme est vraiment très difficile à appliquer. Parce que les niveaux des pressions, les attaques par les pouvoirs, ils sont vraiment très, très mauvais. Et les journalistes ont vraiment du mal à garder à défendre cette valeur de l'objectivité. C'est même pour ça en fait, que les partisans ont devenu si populaires.
C'est le cas aussi du média d'investigation Direct 36 qui enquête beaucoup, principalement même sur les malversations dans l'entourage de Viktor Orban. Ces médias privés, ils luttent aussi pour leur indépendance. Certains en Slovaquie, par exemple, quand des journalistes ont quitté le service public et sont allés travailler pour des médias privés, quand ils ont vu que Robert Fico prenait petit à petit la main, eh bien, ils sentent aussi que cette indépendance-là est fragile. Ça dépend de qui sont les propriétaires de ces médias ou qui les rachètent en cours de route. C'est le cas, par exemple, de la chaîne Markiza, la chaîne la plus regardée du pays, et ce, depuis 25 ans. Eh bien, un jour, le présentateur de la très populaire émission politique Natello, il s'appelle Michal Kovacic, a dû passer un message. Il a profité d'avoir l'antenne pour passer un message aux téléspectateurs.
Boj o podobu spravodajstva televízie Markiza prebieha už celé mesiace. Čelíme tlakom nielen od politikov, ale aj od
vlastného média. Alors là, il dit que la lutte pour la forme, cette forme-là du journal télévisé de Markiza dure depuis des mois. Nous sommes confrontés, dit-il, à des pressions non seulement de la part des politiques, mais aussi de la part de nos propres dirigeants. Les tentatives de censure dans les débats ont commencé au tout début de l'année, puis avec des pressions quotidiennes. Les journaux télévisés aussi ont été confrontés à cette situation peu de temps après. Et parce que notre comité de rédaction n'a pas eu peur, il leur a tenu tête collectivement jusqu'à aujourd'hui. Nos journaux ont une forme complètement différente de celle que notre direction préconise. Que s'est-il passé, Yana Vargochikova, sur cette chaîne Markiza? Lui, il a été licencié dès le lendemain après avoir, comme on dit, les directions disent, avoir pris en otage l'antenne pour délivrer ce message politique. Sauf que la chaîne Markiza ne figure plus depuis quelque temps dans la liste des médias ennemis établi par Robert Fico. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
Alors c'est très intéressant parce que la chaîne privée Markiza, qui est donc la première dans les audiences, dans les mesures d'audience, elle depuis des décennies, c'est vraiment la première chaîne regardée. Elle aussi, comme... L'épisode, en tout cas le cas de Michal Kovacic, rappelle aussi que les chaînes privées, elles aussi, elles ont connu des épisodes de pression politique et des épisodes de résistance des équipes de journalistes. Markiza, d'ailleurs, est créée en 96 comme la première chaîne privée et va rapidement, justement, évincer donc les chaînes publiques sur les chiffres d'audience. Et elle est vue à l'époque, justement, comme un peu ce média qui vient s'opposer aux médias publics kidnappés, capturés par le gouvernement semi-autoritaire de l'époque de Vladimir Mečiar. Et là, avec...
Dans les années 90.
Dans les années 90, tout à fait. Donc c'était un peu ce leader qu'on considère aujourd'hui semi-autoritaire, en tout cas on pourrait dire illibéral, mais à l'époque ce n'était pas le terme principal employé. Dans le cas de Markiza, récemment, est intervenu un changement à la direction de la chaîne. Et surtout un changement donc à la direction de la chaîne qui s'est accompagné du remplacement du directeur de l'information, et c'était principalement donc ce nouveau directeur de l'information, Michal Kratochvil, dont les pressions ont été dénoncées par les journalistes, par Michal Kovacic et par d'autres. Alors, le directeur général de la chaîne, lui, intervenait comme un peu une figure en surplomb. Alors, c'est quelqu'un qui est venu des entreprises de télécommunications, mais qui appartenait, comme la chaîne Marquisa, au groupe financier PPF, un groupe financier du milliardaire tchèque Petr Kellner, mort il y a quelque temps. Mais en tout cas, cette nouvelle direction d'information a été accusée d'intervenir directement dans le travail des journalistes et en se comportant comme un rédacteur en chef en fait, du journal télévisé. Mikhail Kovacic a donc été licencié. Il a attaqué en justice son licenciement et le procès est en cours d'ailleurs. Et puis dans la suite, son collègue qu'il a remplacé à la tête des syndicats, parce qu'à un moyen de résistance a été la création de syndicats aussi à la chaîne privée, ce qui était inédit. Lui aussi, son collègue, a été licencié.
Alors Simone Benazzo, tout ça rappelle également la Hongrie où les Hongrois ont pris l'habitude de s'informer par d'autres canaux avec toujours cette peur que un média fût-il privé, indépendant en Hongrie, c'est davantage synonyme peut-être ne se fasse un jour racheter. Mais par exemple Club Radio qui avait cessé d'émettre en 2021, je crois, parce que le gouvernement disait qu'elle n'avait pas rendu à temps certains papiers administratifs, eh bien elle continue à émettre sur Internet. Vous nous disiez tout à l'heure, Simone Benazzo, que la différence entre la Slovaquie et la Hongrie, c'est 13 ans d'écart. Le fait que, par exemple, l'Union européenne ait vu comment Viktor Orban agissait avec les médias et appris aussi de ce qui se passait en Hongrie, qu'est-ce que ça change dans la façon dont elle parle avec les autorités slovaques et elle surveille aussi ce qui est en train de se passer en Slovaquie quant à l'audiovisuel public?
Alors c'est une question très intéressante parce que...
Je posais la question à Simone Benazzo, excusez-moi. Vous êtes là?
Oui, je suis là. Oui, je pense que la Commission européenne a pris des mesures, par exemple, les European Media Freedom Act, et il a passé ces lois, ça fait, je pense, il y a 2 ans. Et ces règlements ont été pensés... principalement en fait pour éviter des situations comme on voit en Hongrie, pour défendre la liberté et l'indépendance des médias publics, des médias audiovisuels publics. Mais au final, je pense que il faut toujours garder à l'esprit en fait que quand on parle d'Union européenne, les vrais pouvoirs politiques en fait et les pouvoirs du Conseil européen. Et on peut bien passer des lois, on peut bien passer des règlements au Parlement européen, mais en fait, au final, il s'agit d'une question politique et les chefs d'État qui sont réunis dans les conseils européens ont montré plusieurs fois qu'en fait, ils ne voulaient pas vraiment punir Orban, punir en fait les dérives autoritaires. Et c'est bien ça en fait les problèmes.
Là, le 11 décembre dernier, l'Union européenne a ouvert une infraction contre la Hongrie pour non-protection de la liberté de la presse et non-protection des sources. Néanmoins, comment est-ce qu'elle a réagi ou va réagir à la suppression de l'Office de protection des lanceurs d'alerte en Slovaquie qui a été remplacé ou qui va être remplacé le 1er janvier par un nouvel organisme, Office de protection des victimes de crimes et des lanceurs d'alerte d'activités antisociales, ce sera son nom, et dont le président sera directement nommé par Robert Fico. Simone Benazzo, est-ce que vous savez si elle a déjà réagi?
Non, pas encore, mais je pense qu'en fait, la Commission européenne est en train de regarder dans ces dossiers, parce que moi, je m'attendrai qu'elle va réagir, en fait.
Vous disiez que c'est une question très intéressante. Yana Vargochikova, pardon, je vous ai coupé tout à l'heure, mais en quelques mots.
Oui, simplement, ça rappelle ce qu'a étudié Laure Neumayer, politiste spécialiste de ces relations entre l'Union européenne et le gouvernement hongrois. Ce qu'elle trouve correspondre à une forme finalement d'autoritarisme électoral qui s'adapte au fur et à mesure aux politiques publiques européennes qui émergent pour restreindre ou pour limiter les tendances autoritaires au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire, ce sont ces va-et-vient autour de différents points dans les médias publics Et finalement, les gouvernements, en tout cas slovaques, ça a été le cas sur les réformes du code pénal où des peines pour des faits de corruption ont été revues à la baisse et où ensuite le gouvernement slovaque revient sur sa décision pour accommoder la Commission européenne. Donc ces va-et-vient voilà, sont intéressants et à suivre.
Peut-être un tout petit mot de conclusion, Simone Benazzo, comme vous êtes doctorant et que vous continuez vos recherches, y compris de terrain pour votre thèse, est-ce que les journalistes hongrois vous accordent facilement leur confiance quand il s'agit de parler des conditions d'exercice de leur métier dans la Hongrie de Viktor Orban ?
Pas vraiment, en fait. C'est pas vraiment facile de contacter des journalistes hongrois parce qu'en fait, je pense que tout le monde a peur de ces opérations qu'on appelle Black Cube, qui en fait, elles sont des tentatives, par exemple, il y a les cas où les chercheurs vont contacter des journalistes, ils vont mener des entretiens avec eux, et après, la machine de propagande va utiliser des morceaux, des fragments de cet entretien, parce qu'en fait, les gouvernements appliquent ces techniques pour faire des pressions sur les médias indépendants. Et du coup, moi, comme chercheur, j'ai toujours du mal, en fait, à avoir du contact avec les journalistes en voix.
Des journalistes qui ont peur que les ténèbres s'infiltrent par la coque craquelée, comme le chante cette chanteuse slovaque, dont je n'ai pas le nom, Suzana Smatanova.
Búrkami zaliala loď, tma prúdi cez prasknuté dno. Bez vesiel som vo víre vln, nech spím, nech je to len zlým snom. Do noci ma láka hlas morských hrias a v diaľke spoznávam zem, pevnú zem, len že prežijem, že prežijem. Som prízrakom v mrazivej hmle a z blúdivých sirén mám strach. V únave z tečúcich slz už viem, aký má smrť pach.
La chanteuse slovaque Suzana Smatanova qui fait ici la promesse qu'elle survivra, Sloup Jeprejiem, une chanson qui date de 2023. Vous écoutez Culture Monde, le troisième épisode de notre série sur les audiovisuels publics, sur la sellette aujourd'hui en Slovaquie où le pouvoir reprend le contrôle comme Viktor Orban l'a fait plutôt en Hongrie avec des méthodes un petit peu différentes néanmoins. La Lituanie, elle, lutte encore pour ne pas subir le même sort.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
J'appellerai ce qui se passe une orbanisation. Nous voyons ce qui arrive en Hongrie et en Slovaquie, et ce qui s'est passé en Pologne. Les mêmes processus se répètent. La cible est toujours l'audiovisuel public.
Un membre du parti libéral lituanien qui est dans l'opposition, rencontré par une équipe d'Arte aux alentours du 9 décembre dernier, date à laquelle une manifestation a rassemblé quelques 10 000 personnes à Vilnius, hier aussi d'ailleurs, contre une réforme de l'audiovisuel public lituanien, la LRT. Cette réforme qui vise à modifier la procédure de licenciement du directeur général du groupe public. Bonjour Emilia Pungiote-Galois.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur associé à l'université Vytautas Magnus de Kaunas en Lituanie. J'espère que je le prononce correctement. Un peu plus en détail, qu'est-ce que prévoit ce qui apparaît de loin comme une mini-réforme de l'audiovisuel public puisqu'on ne parle que de cette procédure de licenciement de son directeur ?
Oui, tout à fait. Et donc la situation en Lituanie, elle se distingue un petit peu de la situation en Hongrie et en Slovaquie, dans le sens où c'est plutôt une compétition assez classique entre les partis politiques, plutôt classiques, voilà, social-démocrates qui sont au pouvoir, et puis les conservateurs et les libéraux qui sont à l'opposition. Et la réforme actuelle, en fait, elle tourne assez largement autour de la personnalité particulière de la directrice de l'audiovisuel public actuelle, donc Madame Gorbatchevskaya-Budryana. Depuis un moment, elle a été considérée par certaines personnalités politiques comme étant favorable au parti conservateur. Et donc, qui était au pouvoir dans le gouvernement précédent. Et donc, la coalition actuelle, qui comprend le Parti social-démocrate et deux mouvements plutôt populistes, ils estiment que donc, l'audiovisuel public, aujourd'hui, n'est pas objectif. Et donc, elle, la volonté, c'est de faciliter la procédure de la destitution du directeur. Et la réforme est passée d'une manière assez accélérée, et sans une véritable discussion avec la société civile, avec les journalistes. Et ce qui paraît comme une stratégie politique, surtout pour les social-démocrates, pas très intelligente, parce qu'il y a une opposition assez conséquente du Parti conservateur. Donc il y a une probabilité que dans les élections suivantes, donc ils vont à être un désavantage. Mais donc cette hâte, elle montre un peu que le problème, c'est plutôt dans l'immédiat. Ceci étant dit, à la fin, on revient au même, hein, la libéralisation des règles de destitution donc du directeur des médias publics finit par ouvrir la porte à la politisation de ces médias.
Même si je comprends bien, j'espère ne pas faire de raccourci, mais comme cette directrice de l'audiovisuel public est plutôt proche du Parti conservateur, donc le pouvoir actuel reproche davantage au service public de l'audiovisuel de pencher trop à droite qu'à gauche, ce qui est un peu différent de chez nous et d'autres pays dont on parle depuis le début de la semaine. Il y a dans la coalition au pouvoir un parti anti-système qui s'appelle Aube du Niémen. Le Niémen, c'est ce fleuve qui traverse le pays. Le parti a fait 15,26% aux dernières élections et il s'est allié aux sociaux-démocrates, d'où aussi cette réforme qu'il a contribué à porter. Comment expliquer la réaction de la société lituanienne? Plus de 10 000 personnes rassemblées à Vilnius pour protester. 130 000 ont signé une pétition. Il y a encore eu des manifestations hier. Il y en aura ce soir, demain. Comment expliquer? C'est un attachement au service public de l'audiovisuel ou c'est surtout une réaction à cette nouvelle coalition et l'apparition d'Aube du Niémen au pouvoir?
Cette mobilisation de la société civile, elle date d'il y a un peu plus de temps. Et notamment, elle est en réaction de l'entrée en coalition des social-démocrates avec ce parti populiste Naam Nusra, dont enfin c'est plutôt un mouvement, il n'est pas d'extrême droite, c'est plutôt un mouvement sans une vraie couleur idéologique cohérente, plutôt caractère anti-système qui vise l'électorat de protestation, dont le leader il est une figure assez controversée, qu'il a été d'ailleurs jugé pour les propos antisémites, mais bon, son parti n'est pas antisémite en tant que tel, mais ils sont surtout ils sont pas beaucoup de cadres, et donc l'idée c'était que ils ont voulu nommer au ministère de la culture, qui est d'ailleurs responsable de l'audiovisuel aussi, quelqu'un qui n'était pas compétent, et le motif était que voilà, la culture ce n'est pas tellement important, donc les social-démocrates, ils ont dit voilà, on va donner ça à ce parti qui est controversé. Mmh. Et du coup, ça a évoqué une très grande protestation d'abord de la communauté des professionnels de la culture et puis une société civile plus largement contre ce parti qui est anti-système et qui voilà, qui nuit un peu à la vie politique et vie démocratique de la Lituanie. Et donc la réforme qui a été aussi de l'audiovisuel, qui a été aussi instigée par ce parti notamment, il entre dans le même jeu et donc la mobilisation elle continue. Et maintenant, donc avant c'était pour sauvegarder la culture en tant que objet important de la vie publique. Et maintenant, c'est pour sauvegarder la liberté de la parole.
Et les sociaux-démocrates, eux, qui dans un premier temps avaient déclaré qu'ils ne confieraient pas de ministère stratégique à Aube du Niémen de toute façon, qui lui ont finalement confié le ministère de la Culture, c'est ce dernier qui a proposé la réforme de l'audiovisuel public. Est-ce que les sociaux-démocrates ont accepté que ce texte de loi soit présenté tel quel ou ils ont essayé de peser pour l'alléger, à moins qu'ils n'aient eux aussi intérêt à museler l'audiovisuel public?
où ils ont proposé quelques petites corrections, mais ça revient en même. Et surtout, ce sont les social-démocrates qui poussent cette réforme d'une manière très, enfin, hâtive et sans discuter avec la société civile, notamment avec ceux qui protestent. Ce qui montre qu'eux aussi, ils sont un peu dans la même logique politique de passer cette réforme. Ceci étant dit, ça reste circonscrit autour de la question de destitution du directeur général. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a d'autres conditions qui sont posées, par exemple la nécessité de considérer l'intérêt public avant la procédure de destitution, et les autres organes de gouvernance, notamment le Conseil d'audiovisuel public, il reste intact et ce conseil, il est assez représentatif.
Et néanmoins, les journalistes de l'audiovisuel public se sentent menacés. Pendant quelques temps, les journaux, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais commençaient par un silence et puis le ou la journaliste enchaînait avec pas touche à la liberté d'expression avant de poursuivre le journal. Il y a eu aussi de nombreux entretiens avec des journalistes hongrois ou slovaques témoignant des difficultés à faire leur travail correctement aujourd'hui. Vous disiez que pour l'instant, la réforme est circonscrite à cette question de procédure de licenciement du directeur ou de la directrice. Est-ce que ça veut dire que le financement de l'audiovisuel public lituanien, ça n'est pas une question pour l'instant ?
Le financement, ça c'était aussi donc un élément qui a été proposé par le fameux parti Nermonosha de geler le financement de l'audiovisuel public avec les motivations différentes, mais le geler de financement dans la condition actuelle où il y a la menace de la guerre et il faut augmenter les finances pour la sécurité. Donc la société, elle regarde d'une manière un peu plus moins critique. Mais ceci étant dit, les journalistes et aussi les groupes d'intérêt, la société est mobilisée avant que ça soit trop tard. C'est-à-dire que cette circulation des idées, circulation des pratiques au sein de l'Europe, elle se passe effectivement. On regarde ce qui s'est passé en Hongrie, on se passe ce qui se passe en Slovaquie, le ministère de la Culture, après l'audiovisuel. Et donc, on se sent menacé comme quoi quelque chose comme ça pourrait arriver aussi en Lituanie. Donc la mobilisation est plutôt en aval.
Merci beaucoup, Emilia Punžiūtė-Galois, d'avoir été avec nous depuis la Lituanie. Vous êtes professeure associée à l'université Vytautas Magnus de Kaunas. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce que ça vous évoque, Jana Vargovčíková, pour la Slovaquie que vous avez particulièrement étudiée, des résistances aussi en cours? On entend que la société lituanienne, elle est là, elle sera là. On a entendu dans le journal de 8h sur France Culture ce matin des reportages dans les cortèges. Ils sont là, ils seront là ce soir, ils seront là demain. Est-ce que vous sentez une même forme de résistance en Slovaquie ?
Alors effectivement, c'est peut-être ce que j'ai mentionné un peu moins, mais cette réforme de l'audiovisuel public avait provoqué des résistances fortes au sein de la télévision et radio publique. D'ailleurs, c'était la première fois depuis la fusion que les journalistes s'étaient mis en grève et ils étaient 1200 à signer une déclaration commune contre la réforme. Ils ont été soutenus aussi par la rue, par des rassemblements dans la rue à l'époque. Donc ça ne se passe pas sans résistance.
Et sans heurts. Merci d'avoir été avec nous pour en parler. Jana Vargovčíková, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'INALCO. Je remercie aussi Simone Benazzo, qui était avec nous depuis Bruxelles, doctorant en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Et merci à Fabien Cazot, correspondant de Radio France, qui vous a accueilli en duplex dans ses studios. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Le Maroc est en deuil, Catherine. Des inondations dimanche ont fait au moins 37 morts.
Les pires inondations de la décennie, les pluies diluviennes et orageuses qui se sont abattues sur la province de Safi, sur la côte atlantique du Maroc, ont provoqué des crues exceptionnelles, souligne le quotidien Aujourd'hui le Maroc. Les cours sont suspendus depuis, des torrents d'eau boueuse ont surpris les habitants dans plusieurs zones de la ville, ajoute le journal Express. Des inondations emportant voitures, poubelles, mais aussi des poteries, des assiettes, des plats à tagine, des jarres, l'artisanat qui fait la réputation de la vieille ville de Safi. décrit la presse. Des centaines d'objets en terre cuite sont aujourd'hui brisés ou ensevelis sous la boue. Les autorités évaluent encore les dégâts et elles ont appelé les habitants à reporter leurs déplacements non essentiels, poursuit le journal Express. Et des décombres jaillissent aujourd'hui des questions. Y a-t-il des responsables de cette tragédie? Le parquet national a ouvert une enquête, rapporte aujourd'hui le Maroc, et des habitants pointent du doigt le retard dans l'intervention des secours pour pomper l'eau accumulée dans certains points de la ville de Safi. C'est ce que relève le journal en ligne TSA dans l'Algérie voisine, pays en froid diplomatique avec le Maroc. Les infrastructures de drainage, souvent critiquées pour leur insuffisance, ont-elles été négligées? C'est ce que demande également en ligne le site marocain L'Opinion des Jeunes, selon qui les habitants de Safi, déjà éprouvés par des conditions climatiques extrêmes, se sentent trahis par un système qui semble les avoir abandonnés au moment où ils en avaient le plus besoin. Et de conclure, en ce jour de deuil, nous pleurons nos morts, mais nous devons également exiger des réponses et des actions. Alors que le Maroc a connu à l'automne dernier des manifestations de la Gen Z exigeant de meilleurs services publics dans le pays, des services encore en cause aujourd'hui. Le Maroc connaît aussi de fortes chutes de neige sur le massif de l'Atlas après 7 années de sécheresse.
Vous avez également lu ce matin, Catherine, la presse chilienne. José Antonio Kast, qui vient d'être élu à la présidence, a réservé son premier voyage diplomatique à Javier Milei en Argentine.
Pour marquer la proximité idéologique entre les deux dirigeants d'Amérique du Sud. José Antonio Kast et Javier Milei, unis par une tronçonneuse, souligne le quotidien argentin Paris Nadoce et le journal chilien La Tercera, cette tronçonneuse que le président argentin garde dans son bureau, symbole des coupes budgétaires drastiques que Javier Milei a opérées dans la santé, l'université, les retraites. C'est autour de cette tronçonneuse, donc, que le président chilien d'extrême droite et son homologue argentin ont posé hier tout sous lors d'une rencontre suivie notamment par 24 Horas, chaîne d'information en continu chilienne.
Si hay una buena noticia, es que la libertad avanza en toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo!
S'il y a une bonne nouvelle, c'est que la liberté progresse en Amérique latine, a déclaré José Antonio Kast. Vive la liberté, putain! A renchéri l'Argentin Javier Milei, fidèle à son style et à son slogan présidentiel. Les deux hommes ont promis de nouer une relation sans précédent entre leurs deux pays, rapporte La Nación et Paris Nadoce. Coopération migratoire avec expulsion massive de réfugiés vénézuéliens, notamment vers leur pays d'origine. Volonté commune également entre les présidents chiliens et argentins de plaire à l'administration Trump, ajoute Paris Nadoce. José Antonio Kast a lui aussi accusé Nicolas Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic au Venezuela, alors que Donald Trump annonçait hier, lui, un blocus total contre les pétroliers sous sanctions se rendant ou partant du Venezuela, ce qui renforce la pression économique sur Caracas, note le New York Times, en pleine crise entre les deux pays.
Et pour conclure, Catherine, une photo vous a marqué, celle d'empreintes de dinosaures découvertes en Italie.
Des traces d'orteils et de griffes acérées vieilles de plus de 200 millions d'années s'émerveille le Corriere della Sera. Ces empreintes de dinosaures ont été repérées par un photographe naturaliste professionnel qui voulait observer en septembre dernier des rapaces dans les Alpes, précise La Repubblica. Il a sorti ses jumelles, les a pointées vers les falaises abruptes qui le surplombaient. C'est ainsi que par hasard, il fut le premier à découvrir ce trésor historique, non seulement pour la Lombardie, mais aussi pour le monde entier, salue La Repubblica. Un paléontologue de Milan et son équipe ont pris le temps depuis la mi-septembre d'étudier ces milliers d'empreintes de dinosaures dans le parc national du Stelvio, au nord de l'Italie, ajoute La Stampa. Elles mesurent jusqu'à 40 cm de diamètre et appartiennent à des prosauropodes, des dinosaures herbivores au long cou et à la petite tête, décrit Il Giornale, des bipèdes pouvant atteindre 10 mètres de long et qui marchaient visiblement en troupeau de manière synchronisée, note La Repubblica dans une vidéo de reconstitution. Alors, pourquoi ces empreintes se trouvent-elles aujourd'hui sur une pente quasi verticale? Eh bien, c'est dû à la formation de la chaîne alpine. Lorsque les dinosaures parcouraient cette région du nord de l'Italie, elle était constituée de vasières, de boues qui se sont transformées en roches au fil du temps, explique La Repubblica. Et le soulèvement des Alpes les ont fait réapparaître au grand jour. Ces empreintes qui semblent aujourd'hui s'élever donc à la verticale témoignent d'une époque où la vallée, à quelques kilomètres de Bormio, où vont se dérouler les Jeux Olympiques d'hiver, cette époque appartenait aux dinosaures, conclut La Repubblica.
Merci Catherine Dutu.